Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ancien journaliste, essayiste, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Vos questions, amis et auditeurs, 01 45 24 7000, passez autrement par les réseaux sociaux ou l'application mobile de France Inter. Éric Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. On va longuement entrer ce matin dans le détail de vos propositions pour la France, mais commençons d'abord par la prestation télévisée du président de la République hier soir. Sur le fond, vous le savez, il défendait le bilan de son quinquennat. Sur la forme, il a reconnu avoir pu blesser des Français, manquer de respect dans certains de ses propos. Ses erreurs, il dit ne pas les avoir répétées, ce qui est selon lui le plus important. Comment avez-vous, Éric Zemmour, trouvé la prestation du président de la République ?
Écoutez, sur la forme, je l'ai trouvé bien léché. Charmante, ouatée, séductrice à souhait. Sur le fond, comment vous dire, j'ai regretté que Emmanuel Macron parle surtout de lui et assez peu de la France. Espèce de numéro de narcissisme assez marqué, de nombrilisme même. Moi, je vous avoue que ça m'a pas beaucoup intéressé. Alors bon, j'ai bien compris que j'étais sa cible favorite.
Non, il y a eu Pécresse aussi, il y a eu Valérie
Pécresse.
Oui,
sur le budget.
Ouais.
Ah ben ça, c'est des affrontements de technocrates. Je leur laisse. Quand il s'agit du destin de la France, c'est moi qui le cible. Et d'ailleurs, c'est tout à fait légitime. Hein. Je pense que nous avons deux visions absolument antagonistes de la France voilà.
On va parler de ces mots et de vos deux visions de la France, mais sans annoncer sa candidature, Emmanuel Macron estime qu'en 5 ans, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout réformer. Il a raison, il faut deux quinquennats.
Ah bah, vous savez, moi j'ai voté contre le quinquennat. Oui, c'est ça, pour le septennat. Donc, je suis d'accord avec ça.
Non, Éric Zemmour, vous étiez journaliste. Vous
c'était
étiez
en 2000, je votais. J'ai dit je votais contre. Donc, effectivement, oui, ça, là-dessus, il n'a pas tort. Évidemment, il faut du temps pour des choses. Par exemple, pour l'école, il faut, ça prendra beaucoup de temps. Même ce que je propose ne se fera pas comme ça d'un claquement de doigts. Mais après, il y a des directions, il y a des orientations. Et j'ai bien vu hier soir, dans le boulgui-boulga idéologique et sémantique, quand j'arrivais à me dépêtrer de cela, je voyais bien que on est aux antipodes. Quoi.
Vous avez eu, Léa le disait, des mots très durs contre Emmanuel Macron, mannequin de plastique, adolescent qui se cherche. Vous avez aussi dit qu'on a élu le néant avec lui donc et qu'on est tombé dedans. Emmanuel Macron n'est rien. Il vous a répondu, sans vous citer, hier, on a pu dire de moi, il n'est rien, c'est terriblement blessant. Je termine là la citation. Comment réagissez-vous à cette phrase-là du président ?
C'est terrible parce que quand moi, je parle de la France, du destin de la France, de la survie de la France, lui parle de lui. Il est blessé. Mais je vous avoue que je n'en ai cure. C'est pas le problème, n'est pas sa personne.
Non, mais le problème, c'est la fonction, Éric Zemmour.
Mais
c'est la fonction que vous abîmez.
Il est
quand...
candidat. Il est candidat. C'est un candidat. Vous vous souvenez de la fameuse réplique de Jacques Chirac face à Mitterrand. Nous sommes deux candidats. On n'a plus le président de la République et le Premier ministre. C'est un candidat. Les prédécesseurs ont subi des campagnes bien plus dures. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a été traité de fou à la une d'un hebdomadaire. Vous vous en souvenez? Et je ne parlerai pas de François Mitterrand qui a été traité de tous les noms. De Jacques Chirac qui a été traité d'abord de fasciste puis de voleur. Du général de Gaulle lui-même qui a été traité de fasciste, de caudillo
et de
Duce.
Donc vous ne comprenez pas qu'il soit blessé par vos
mots. Moi, quand je suis attaqué, moi aussi je suis blessé, mais on s'en moque. On est au-delà de nos personnes.
Y a-t-il un aspect positif de son quinquennat, une réforme que vous sauvez ?
Ce qu'il a fait sur l'apprentissage. C'est largement subventionné, certes. Mais en tout cas, la direction est bonne.
Encore un mot sur la principale annonce qui portait sur la réforme des retraites. Le projet d'un système de retraite à points n'est plus d'actualité. La réforme qu'a esquissé Emmanuel Macron entend créer, je le rappelle, trois grands régimes pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Le fait de travailler plus longtemps est sur la table, mais Emmanuel Macron n'a pas donné de nouvel âge de départ. Globalement, fini la révolution qu'il voulait faire avec un grand système unique à points. Ça ressemble plus à une réforme paramétrique que vous proposez aussi, Éric Zemmour, puisque vous voulez allonger l'âge de départ à 64 ans. Êtes-vous d'accord avec lui sur les retraites ?
Mais, non, c'est lui qui est d'accord avec moi. Pardonnez-moi, c'est lui qui a renoncé à son système mirobolant qu'il prétendait révolutionnaire et qui allait régler
et
tout
plus
juste par une baguette
et plus
magique
équitable.
Et plus juste, etc. En fait, au bout de trois jours, les Français se sont aperçus que c'était une entourloupe et que le fameux point, on pouvait le baisser ou le monter selon la situation économique. Et donc, c'était... Bon, voilà. Donc, effectivement, oui, il faut rallonger la durée de travail, parce que tout simplement, nous avons des problèmes démographiques. Hein, je vais pas, évidemment, nous ne sommes plus comme il y a 40 ans avec 4 cotisants pour un retraité. Mais je tiens à préciser, quand je dis cela, je précise, mais en un mot, j'exigerai aussi des patrons, avec un système de malus, de sanctions, qu'ils ne virent pas systématiquement les gens entre 50 et 64 ans. Vous voyez, parce que ça, c'est injuste. Si on les oblige à travailler plus longtemps et que les gens, et que après, on leur dit, ben, vous êtes chômeurs, non, ça ne va pas du tout.
Comment vous pouvez imposer ça à un chef d'entreprise, Éric Zemmour ?
Ben, des sanctions financière.
Vous sanctionnerez s'il vire entre 50 et 60 ans.
Oui, s'il y a une... Vous voyez, on y tire.
On passe au sanitaire. Emmanuel Macron n'a pas exclu d'arriver à la vaccination obligatoire face à l'explosion de l'épidémie et de la multiplication des variants. L'Allemagne et l'Autriche y sont favorables. Faut-il leur emboîter le pas ?
Moi, je suis contre la vaccination obligatoire, en l'occurrence. En plus, j'ai pas compris d'ailleurs le raisonnement d'Emmanuel Macron hier. Il dit on est 90% de vaccination, donc on arrive à la vaccination obligatoire. Ben, c'est plutôt l'inverse. Puisqu'on a 90%, on n'a pas besoin de la vaccination obligatoire, puisqu'on a les conséquences sans avoir l'obligation. J'avoue que j'ai pas compris ce raisonnement. Par ailleurs, j'ai toujours pas compris non plus cette obsession de vacciner les enfants qui sont effectivement transmettent, mais ne risquent jamais, là il y a toujours un cas exceptionnel, mais de forme grave. Or, si j'ai bien compris ce que nous expliquent les médecins, c'est que ce vaccin, ou ces vaccins, puisque empêchent les formes graves, et c'est déjà formidable, mais n'empêchent absolument pas de transmettre. Donc je vois ni l'intérêt de la vaccination obligatoire, ni l'intérêt de la vaccination des enfants, ni l'intérêt du pass sanitaire.
Mmh. Donc vous laissez circuler le virus si vous ne voyez pas l'intérêt du pass sanitaire.
Oui, je pense qu'il faut, selon l'expression, apprendre à vivre avec le virus. Nous n'allons pas nous confiner comme ça pendant 1000 ans.
Mais on n'est pas confiné, hein ?
Non, mais comprenez ce que je veux dire. On n'allons pas vivre sous la menace du confinement pendant des années, c'est ça que je voulais dire.
Donc il faut laisser circuler le virus, même si ça engorge les hôpitaux.
Ça engorge, on va
vers 4000 personnes en réanimation.
Attendez, vous savez, avant le Covid, les hôpitaux étaient déjà engorgés s'il y avait une épidémie de grippe trop puissante. Donc le problème n'est pas le Covid, le problème est l'hôpital. Et donc il faut régler ce problème de l'hôpital. Il faut investir davantage, il faut régler le problème des lits
j'entends ce que vous dites, mais ça c'est des réformes de long terme. Aujourd'hui il y a une épidémie qui menace, vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous laissez circuler le virus et vous n'appelez pas la vaccination, c'est bien ça?
Mais on peut, la vaccination elle est faite, je comprends pas cette discussion.
Il faut une troisième dose de rappel.
On fera une troisième dose de rappel pour les gens les plus âgés et pour les gens les plus fragiles. Il faut arrêter. Vous comprenez pourquoi je vous réponds ça ? Parce que je pense qu'il faut arrêter de polariser sur cette épidémie, d'en faire quelque chose qui panique les gens, de gouverner par la peur. Il faut s'habituer à cette épidémie. Vous savez, je ne veux pas du tout minorer cette épidémie.
C'est ce que j'allais vous dire, 5 millions de morts, etc. selon l'OMS dans le monde, plus de 100 000 en France.
Non, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des maladies qui tuent encore plus. Et il faudrait pas qu'on occulte ces maladies et que par là, comme ça obstrue les hôpitaux, et là, on ne soigne plus le reste. Mmh.
Sur l'immigration, venons-en à cette thématique. Emmanuel Macron vous a aussi répondu sans vous citer. Il ne croit pas à votre thèse du grand remplacement. Quand on parle de ces phénomènes, mieux vaut d'abord regarder les chiffres, dit-il. L'immigration, je le cite encore, est là. Et elle est là parce que nous avons souvent fait appel à elle pour travailler pour des tâches que les Françaises et les Français ne voulaient plus faire. Elle a aidé à la croissance de notre pays à avancer et il évoque des absurdités quand on parle comme vous d'immigration zéro. Que lui répondez-vous ?
Qu'il a raison sur un point, il faut regarder les chiffres. Mais il ne faut pas regarder que les chiffres. Il faut aussi regarder tout simplement dans la rue. Il faut regarder ce qui se passe, il faut prendre le métro, il faut prendre le RER, il faut prendre le train, il faut aller dans les aéroports, il faut aller à la CAF, il faut aller au bureau de poste, il faut aller dans les écoles. Et là, on voit le grand remplacement en marche. Vous savez, le grand remplacement, c'est pas une thèse fumeuse ou complotiste, c'est simplement un processus de remplacement de population par une autre. Quand vous avez, si vous voulez, les chiffres, puisque Emmanuel Macron aime les chiffres, et là, il aime les chiffres des services officiels liés à son Premier ministre. Je peux pas faire mieux, c'est France Stratégie. Quand vous avez dans des villes de Seine-Saint-Denis le pourcentage d'enfants entre 0 et 18 ans qui sont nés de parents extra-européens à 80%, c'est le cas d'Aubervilliers, de Trappes, etc. Et ben là, vous avez le grand remplacement en marche. Il est inéluctable. Ça veut dire qu'il y a un remplacement de population par une autre.
Parlons des chiffres, Éric Zemmour. Parlons des chiffres, puisque vous voulez parler des chiffres. Vous voulez arrêter les flux et mettre l'immigration à zéro. Aujourd'hui, et depuis des années, il y a à peu près 250 000.
275 000 en 2019-2020.
Effectivement, mais ça dépend des ans. Mais c'était à peu près la même chose sous Nicolas Sarkozy,
absolument,
sous François Hollande.
Vous avez tout à fait raison, il y a... Pour vous situer, sous Jean-Pierre Chevènement en 2000, si j'ose dire, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, on est à 100 000. On passe à 200 000 sous Sarkozy. Et maintenant, on est à 275 000.
Alors, on est autour de 250 000 en fonction des années. Très simple. Vous êtes élu président. Mm-hmm. Combien y aura-t-il de titres de séjour chaque année ? Combien d'immigrés pourront entrer en France ? Donnez un chiffre.
Je ne peux pas donner au chiffre près, mais je peux vous expliquer
donner
ce que je fais.
Autour... Oui, oui. Là, aujourd'hui, c'est 250 000.
Aujourd'hui, vous avez les deux. Attendez. Vous avez les 275 000. Auquel il faut ajouter les 140 000 de droit. Attendez. Les 140 000 de droit d'asile, il y a à peu près 10 à 15% d'acceptés, tout le reste est débouté, sauf que personne ne part à 10%. Donc vous rajoutez encore entre 75
vous
et 100 000. Donc
ça fait
à peu
vous
près 350 000
vous
à 400 000 tous les ans. Je suis président, qu'est-ce que je fais ? C'est très simple. Un, je supprime le droit au regroupement familial et à la vie familiale normale, ça fait 90 000 par an. Ça restera quelques milliers ou plus. Deux, j'exige que le droit d'asile soit les demandes de droit d'asile soient déposées dans les consulats à l'étranger. Et je réduis le droit d'asile à quelques dizaines, quelques centaines de cas. C'était, dans les années 50, il y avait 300 cas par an. Les vrais, ce qu'on appelait les combattants de la liberté. Au Japon, il y en a 42 en 2018. Je veux réduire à cela. Deux. Trois, il y a ensuite les étudiants. 90 000 encore. Je réduis au minimum les étudiants et je sélectionne beaucoup plus et j'exige le retour imposé.
Combien d'étudiants ?
Je continue.
Combien ?
On étudie. Quelques milliers.
Aujourd'hui,
quelques
90
milliers,
000.
Pas plus. Quelques milliers, pas plus. Pas
donc les étudiants 000. Qui viennent passer un an en France et font rayonner la France après à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, tout ça, terminé.
Ah oui, pour uniquement les meilleurs élèves. Je ne garde que les meilleurs. Je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas là pour entretenir à coup de bourse des faux étudiants. Et il y en a énormément. Je continue. Il y a, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il venait pour travailler, qu'on les faisait venir, selon la doxa classique qui date de 40 ans, c'est-à-dire qu'on les faisait venir dans les années 60-70. Ça fait longtemps qu'on ne les fait plus venir. Il y a seulement, dans les 275 000 dont on parlait, cher Léa, il y a 14% de gens qui viennent travailler. 14%.
Alors,
donc ceux-là, on peut éventuellement les faire venir avec des... J'ai discuté avec un producteur de fraises, de Garriguette. Vous savez que... Enfin, vous ne savez peut-être pas, mais j'adore les fraises Garriguette. Et donc, je parlais avec ce producteur. Il me disait que, effectivement, là, pour le coup, il fait venir des Marocains parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de Français. Mais ajoute-t-il, ils repartent. ça sera le seul cas.
Alors, donc, pour prolonger la question Léa sur les 275 000 dont...
Je ne vous parle que de l'immigration légale, vous avez compris.
Oui.
Après, il faudra renvoyer...
On arrive à combien, alors, pour finir? 275 000 aujourd'hui.
Je vous dis vraiment quelques milliers, pas plus. L'objectif sera l'immigration zéro. Mais le plan n'est pas fini. N'oubliez pas, il y a aussi l'expulsion, il y a aussi toute la suppression des pompes aspirantes. C'est-à-dire, je supprime le droit du sol, je supprime l'AME, je supprime les allocations sociales pour les étrangers non contributives.
Alors justement, vous voulez supprimer...
Je réduis à presque rien les naturalisations. Et je renvoie les étrangers délinquants et je fais la déchéance de nationalité pour les binationaux criminels et multirécidivistes.
Et vous voulez supprimer...
Et pardonnez-moi, dernière chose.
Juste un mot
dernière chose
important.
Pour les chômeurs, les gens qui sont au chômage, qui sont étrangers, si au bout de 6 mois, ils n'ont pas retrouvé du travail, je les renvoie.
Vous voulez supprimer également toutes les aides sociales aux étrangers, même ceux qui sont en France légalement.
Oui, non contributives, on est bien d'accord.
Le brancardier à l'hôpital, la femme de ménage qui travaille légalement, n'auront plus le droit aux aides sociales, terminé, fini, c'est
ils
ça
auront le droit, ils auront le droit à ce pour quoi ils ont cotisé. C'est-à-dire l'assurance maladie, la retraite, oui. Mais pour les aides sociales de la solidarité nationale, elle redeviendra nationale, c'est-à-dire allocation familiale, aide au logement, allocation logement, RSA, minimum vieillesse.
Ça ne passera pas au Conseil constitutionnel, vous le savez, Éric Zemmour, puisque la solidarité nationale bénéficie à toute personne qui réside en France selon le principe d'égalité établi par le préambule de la Constitution et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce que vous faites si c'est censuré par le Conseil constitutionnel?
D'abord, une question de principe. Vous avez vous-même dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a oublié et du citoyen. On a considéré que c'était que les droits de l'homme. C'est très simple, je l'ai déjà dit, je fais un référendum dès mon élection, en même temps que les législatives. Je fais un référendum sur toutes les mesures que je viens de vous présenter et c'est le peuple qui tranchera. Et vous savez, depuis 1962, une jurisprudence du Conseil constitutionnel, et heureusement, s'interdit de juger le référendum, car c'est la volonté du peuple qui s'exprime directement.
Vous dites, c'est pas le Conseil constitutionnel qui fera, si je suis élu, la politique de la France.
Absolument.
Ça veut dire quoi? Vous voulez le supprimer, le Conseil constitutionnel? Vous voulez changer son fonctionnement? S'asseoir sur ses décisions?
Non, je ne supprime rien. Le Conseil constitutionnel est une institution de la République, mais je veux qu'il, si vous voulez, il est sorti de son lit il y a longtemps. Je ne vais pas vous refaire un cours de droit constitutionnel que vous connaissez comme moi, on n'a pas le temps. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il est sorti du rôle que lui avait été dévolu par Michel Debré et le général de Gaulle. Aujourd'hui, il impose son idéologie. Je vous donne un seul exemple, un seul.
Non, parce qu'on n'a plus le temps.
Au nom du principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité, il a interdit au gouvernement de sanctionner un passeur de clandestins. Je trouve ça scandaleux.
On va aller au standard dans quelques instants où il y a quelques auditeurs qui veulent vous interroger sur votre programme économique. Je ne veux pas revenir sur la polémique autour des prénoms. On a compris que si vous êtes président, les musulmans de France ne pourront pas appeler leurs enfants comme ils l'entendent. Concernant
Je peux vous répondre 30 secondes?
Oui.
Parce que c'est intéressant. Demander à Léa ce qu'elle en pense. Elle-même, quand elle est arrivée à Paris, elle s'appelait Khala et elle a changé de prénom et elle a bien fait, car ça a favorisé son assimilation et son acceptation par les Français.
J'ai gardé mon prénom.
Mais d'ailleurs, vous avez bien fait, je vous félicite. Parce que c'est une preuve d'amour aux Français. Et ce n'est pas la seule. Anne Hidalgo s'appelait Anna Maria. Vous voyez, et c'est très bien, c'est tout ce que je veux. Vous voyez, ça s'est fait comme ça pendant des décennies. Tous les Italiens, les Espagnols l'ont fait.
Alors,
c'est ça la France.
Sortons des prénoms concernant les femmes voilées. Est-ce que vous interdirez le voile absolument partout dans l'espace public?
Oui.
Donc une femme qui va à l'hôpital se faire soigner voilée ou qui prend le métro voilée pour aller travailler, elle se fait verbaliser?
Oui.
Vous mettez un policier derrière chaque femme voilée?
Vous savez... C'est dans les pays arabes que les grands réformateurs comme Bourguiba, comme Atatürk et comme Nasser ont enlevé le voile aux femmes. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Le voile est un étendard politique et un étendard religieux. Dans l'islam, c'est la même chose, la religion et la politique. Et ça permet de coloniser l'espace visuel. Donc, moi, je ne laisserai pas la France être colonisée visuellement ou factuellement.
La grève a été votée à la SNCF alors que les vacances commencent. Elle touchera les TGV Sud-Est dès demain. Il n'y aura qu'un TGV sur deux. La direction de la SNCF SNCF dénonce une attitude scandaleuse alors que les Français veulent retrouver leurs proches à Noël. Vous condamnez cette grève avant les vacances de Noël ou vous la soutenez?
Si vous voulez, oui, je pense que c'est un abus. C'est un abus. Vous savez, la grève, il faut évidemment respecter, c'est un principe, alors là, constitutionnel, pour reprendre notre discussion de tout à l'heure, et c'est très bien, mais il faut quand même qu'il soit encadré et que ça soit pas n'importe quoi. Mais il faudrait avoir une discussion plus globale sur ce qu'on a fait à la SNCF, ce qu'on a fait aux cheminots, avec les principes de concurrence imposés par l'Europe, acceptés par les gouvernements successifs, et qui ne correspondent pas à ce monopole naturel qu'est la SNCF. Donc, il faudrait rediscuter de tout ça.
Au standard, Gaël, qui envisage de voter pour vous. Bonjour Gaël et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Donc, bonjour Gaël. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Enchanté de pouvoir vous parler.
Merci, moi aussi.
Je vous suis depuis Face à l'Info. Et effectivement, j'envisage énormément de voter pour vous en 2022, bien que j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. J'ai toujours été de gauche par défaut. Et en fait, je trouve toujours que son programme économique qu'il avait présenté à l'époque me paraît le plus solide et le meilleur, justement aussi dans l'objectif de réconcilier les classes populaires et la bourgeoisie, ce que vous cherchez aussi à faire. Et je trouve que c'est une bonne démarche. Mais je vous trouve assez fou, justement, sur la question économique, puisque tantôt, vous avez des mesures plutôt de gauche pour plus de souveraineté nationale, une réindustrialisation du pays, et aussi une régularisation des GAFAM, une certaine critique de la mondialisation. Donc tout ça, je trouve ça extrêmement bien.
Un programme et de droite et de gauche, si je vous entends, Gaël.
Oui, c'est bien ça.
On va demander à Éric Zemmour de vous répondre sur ces deux aspects-là de son approche de l'économie.
Cher Gaël, vous avez tout compris. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un idéologue. Je prends ce qui est bien dans tous les systèmes économiques. Je ne suis un pragmatique en économie. Et donc, ce que je veux, c'est la puissance de la France retrouvée, parce qu'elle l'a perdue, et la prospérité des Français, car ils l'ont perdue, et que nous vivons un grand appauvrissement des Français. Donc je pioche, effectivement, vous avez tout à fait raison, dans toutes les idéologies économiques, dans tous les systèmes, pour avoir le système le plus efficace. Et effectivement, il y a des mesures qu'on pourrait qualifier de libérales, de baisse d'impôts, impôts de production, augmentation du plafond pour les petites entreprises de l'IS. Vous voyez, il y a des mesures comme ça de qu'on pourrait qualifier de libérales, car de baisse d'impôts. Et il y a des mesures qu'on pourrait qualifier de plus colbertistes, qui est un grand ministère de l'industrie, un contrôle des investissements étrangers plus strict. Vous voyez, il y a des choses effectivement dans tous les systèmes, mais j'assume très bien.
Alain, au standard, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour Madame Léa, bonjour Monsieur Nicolas, bonjour Monsieur Zemmour.
Bonjour Monsieur.
Je voudrais que Monsieur Zemmour nous explique cette dichotomie qui est la sienne. Il veut embrasser la France, il aime la France, il va la sauver, extraordinaire programme. Tout en sachant qu'avec son programme et ses idées que je viens d'écouter avec beaucoup d'attention, il va mettre la France à feu et à sang. Il faut appeler un chat un chat. Comment il peut expliquer tout ça, Monsieur Zemmour?
Alain, Éric Zemmour.
Cher monsieur, c'est pas moi qui mets la France à feu et à sang. C'est la France qui est à feu et à sang. Je ne vous parlerai pas de ce pauvre Samuel Paty, je ne vous parlerai pas égorgé, je ne vous parlerai pas des prêtres tués dans leur église, je ne vous parlerai pas des policières tuées dans le commissariat, je vous parlerai simplement de la délinquance ordinaire. 1800 agressions par jour, un taux de crime qui explose, un taux de délinquance qui explose. Les gens, moi, au contraire, je ramènerai la tranquillité, la paix.
Mais voyez, Éric Zemmour, c'est un peu ce que disent vos amis politiques dont vous espérez qu'ils vous rejoignent, mais qui ne vous rejoignent pas, à savoir Éric Ciotti, Laurent Wauquiez ou Robert Ménard. Ils disent tous, il n'est pas l'homme du rassemblement, il est trop excessif, il ne pourra pas gagner. Et Robert Ménard dit, il manque de bienveillance, il pense qu'être intelligent et cultivé, ça suffit, mais non, il faut être attentif aux gens. Tous ces gens-là pensent que vous allez, d'une certaine manière, avec peut-être vos excès et vos outrances, mettre le pays à feu et à sang. Ils vous rejoignent pas, en tout cas.
Vous savez, le problème des hommes politiques, c'est qu'ils sont dans des logiques politiques. Et je dirais même politiciennes. Éric Ciotti a fait campagne sur mon nom, on peut dire, sans prétention, sur mon nom. et désormais il se retourne, il se détourne de moi. Je pense que là il y a une trahison de ses propres électeurs. Ses électeurs ont voté pour lui, pour moi. Donc ils ont voté pour lui pour qu'il me rejoigne. S'il ne le fait pas, il trahira ses électeurs.
Bon, bah, c'est comme ça.
Vauquier, pardonnez-moi. Hein, j'aimerais lui rappeler que Madame Pécresse a quitté LR à cause de lui et qu'il n'est pas.
Il la soutient.
Comment ?
Il la soutient.
Ben, que ça s'appelle un politicien. C'est triste. Mais vous savez, ma porte est toujours ouverte. Si ces gens-là se mettent enfin un jour au diapason de leurs convictions et non pas de leurs tactiques et de leurs intérêts partisans, ma porte sera toujours ouverte.
Quelques questions rapides, le temps presse. Allez-vous réécrire, Éric Zemmour, les manuels scolaires à l'aune des thèses que vous défendez dans vos livres et qui vont à l'encontre de ce que disent une majorité des historiens? Est-ce que les élèves de France apprendront que Pétain a sauvé les Juifs français, selon vous, que l'innocence du capitaine Dreyfus n'est pas certaine, selon vous? Est-ce qu'ils apprendront ça dans leurs manuels scolaires?
C'est pas moi qui réécrirai les programmes scolaires, je vous le promets. Je n'ai pas cette prétention. En revanche, moi,
je vous donnerai instruction.
Oui, je donnerai instruction pour une chose: refaire le roman national, faire aimer la France par son histoire, comme on me l'a fait aimer. Oui, je cesserai parce que vous avez l'air de dire que je vais faire ma propagande, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, et j'ai vu les programmes scolaires. C'est un tissu de propagande, un propagande anti-française, de propagande anti-raciste permanente, de propagande LGBT.
Donc vous changerez les livres d'histoire.
Oui, je changerai, mais pas en fonction de moi, vous comprenez, ce sont des historiens qui le feront. Mais les historiens
ne sont
pas tous...
C'est les historiens qui font les livres d'histoire aujourd'hui.
Ce sont des historiens, oui. Bien sûr,
ben oui.
Mais vous savez bien qu'il y a des querelles d'historiens. L'histoire est un champ de querelles des historiens sur tous les sujets.
Il y a des consensus d'historiens.
Non, il n'y a pas de consensus d'historiens. Il y a des consensus qui s'imposent par la propagande et par le fait qu'ils s'imposent dans les universités.
Abrogerez-vous la loi Pleven de 1972 adoptée pour lutter contre le racisme en France et la loi Guesso de 90 qui réprime tout acte ou toute parole raciste, antisémite ou xénophobe et qui crée le délit de négationnisme du génocide des Juifs? Est-ce que vous les abrogerez, ces deux lois?
Deux choses. Un, c'est pas la même chose. La loi Pleven, je l'abolirai. Pour deux raisons très simples. Un, elle n'a été dévoyée par les juges. J'ai parlé avec le véritable auteur de cette loi, Monsieur Ternoir, qui m'a expliqué que ce n'était pas du tout l'objet que de faire une loi liberticide comme elle a été utilisée par les juges de gauche. Et deuxièmement...
Le racisme redeviendra une opinion et pas un délit, c'est
non,
ça
non,
que
non,
vous dites.
Ça n'a jamais... Non mais ça c'est un mythe ça, vous pouvez très bien attaquer quand vous êtes diffamé. Sous la Troisième République, on pouvait attaquer quelqu'un qui vous traitait de façon raciste et il était condamné. Voilà, ça c'est un moyen pour les juges et pour les minorités d'instrumentaliser la justice dans le débat politique. Et deuxièmement, cette loi interdit de faire une différence entre les Français et les étrangers. Moi, je fais une différence entre les Français et les étrangers. Et dernière chose, cette loi permet à des associations d'ester en justice, ce qui leur permet d'instrumentaliser la justice pour des raisons politiques. Donc oui, j'enlèverai ce droit aux associations.
Vous abrogerez la loi de vous rentrer d'Arménie? Vous abrogerez la loi de 2001 qui reconnaît le génocide des Arméniens?
Cette loi n'a pas à être abrogée puisqu'elle n'interdit rien. Elle reconnaît un génocide. Je reconnais le génocide arménien.
Vous le commémorerez le 24 avril comme Emmanuel Macron ?
Volontiers. Mais vous savez, malheureusement, la France peut reconnaître. C'est la Turquie à qui il faut poser la question.
Vous, président, dernière question. Qui faites-vous entrer au Panthéon ?
Je vous avoue que là, vous me surprenez. Là, vous m'avez pris de court. Je ne sais pas. Si je suis mes goûts personnels, je ne sais pas, moi, un grand écrivain, Blaise Pascal, Chateaubriand.
Merci Éric Zemmour.
Merci Éric Zemmour d'avoir été à notre micro aujourd'hui. 8h48.